Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 22 octobre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un hommage fort, émouvant, hier soir dans la cour de la Sorbonne, pour honorer la mémoire du héros ordinaire que fut Samuel Paty et saluer le travail essentiel quotidien des enseignants. Les mots d'Emmanuel Macron, l'émotion des citoyens dès le début du journal. Après Agnès, les autres titres.
Nous ferons également le point sur l'enquête avec 7 mises en examen hier soir et 5 placements en détention provisoire. L'épidémie de Covid galope. L'exécutif devrait annoncer aujourd'hui de nouvelles restrictions alors qu'en Chine est lancée la première campagne de vaccination auprès du grand public. Et puis les premiers pas de Noémie Lvovsky sur les planches et c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.
Rendez-vous et invité de France Inter ce matin à 7h50. Un film, Léa ?
Oui, c'est un film d'anticipation, une fable écologique, un hommage au cinéma aussi. Last Words, le nouveau film du réalisateur de Mondovino. Au casting de ce film, Nick Nolte et Charlotte Rampling. Charlotte Rampling et le réalisateur Jonathan Nociter seront avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale. Invité aujourd'hui, l'essayiste Pascal Bruckner. Il publie Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. C'est chez Grasset. Vous pourrez dialoguer, l'interpeller si vous le souhaitez, au 01 45 24 7000.
France Inter. Nous continuerons, professeur, nous défendrons la liberté et nous porterons la laïcité. Emmanuel Macron s'est adressé hier soir à Samuel Paty, dont le cercueil reposait au milieu de la cour d'honneur de la Sorbonne. Hommage à un enseignant d'histoire-géographie du collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, décapité vendredi dernier parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Une cérémonie très solennelle, retransmise sur des écrans géants à l'extérieur où une foule d'anonymes s'était rassemblée. Rémi Brancato.
C'est une émotion partagée qui a d'abord rompu le silence place de la Sorbonne avec ses longues minutes d'applaudissements pour accueillir le cercueil de Samuel Paty au son d'une chanson du groupe U2. Emmanuel Macron lui rend ensuite hommage.
Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner.
Une adresse aux proches du professeur et à tous ses enseignants qui, dit-il, changent le cours des existences. Léo et Corentin, encore étudiants, sont touchés.
Moi, je me destine à être professeur d'histoire, donc c'était important pour moi d'être ici. Il y avait énormément d'émotions.
Dans le portrait qui a été fait, oui, je pense que la plupart des personnes qui sont en train d'être formées pour être historiens sont vraiment dans ce discours. On a la volonté de former les gens pour qu'ils puissent s'émanciper par eux-mêmes, en fait, ne pas succomber au fanatisme, qu'importe la religion, qu'importe l'idéologie.
Et pour Edmond Jouve, professeur émérite de droit qui a vêtu sa toge universitaire, ce discours marquera.
C'est un texte, à mon avis, qui restera et qu'on citera. En tant que professeur, je me suis retrouvé dans ce qu'il a dit. Nous serons à vos côtés, continuer à former nos enfants. Il ne pouvait pas dire de choses plus nobles.
Pour l'enseignant, il faut maintenant faire entrer Samuel Paty au Panthéon, car les grands hommes, dit-il, peuvent être des hommes humbles, un qualificatif utilisé aussi par le chef de l'État.
Un reportage de Rémi Brancato. Et hasard du calendrier, le ministre de l'Éducation national lance aujourd'hui un Grenelle de l'éducation. Il sera question des conditions de travail, notamment des salaires, mais aussi du sentiment de solitude des enseignants. Et alors que se déroulait la cérémonie, 7 personnes ont été mises en examen hier. Le père de famille qui a posté la première vidéo pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il a été incarcéré dans l'attente d'un débat demain sur son maintien ou non en détention provisoire. Le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui et 2 proches du tueur ont également été mis en examen et placés en détention provisoire. Et puis 2 collégiens de 14 et 15 ans seront également poursuivis pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, car la justice estime qu'ils ont joué un rôle dans cette attaque. Corinne Audouin.
La rumeur que des collégiens avaient touché de l'argent du terroriste avait couru dès vendredi soir à Conflans. Mais on ignorait jusqu'alors le degré de connaissance des adolescents sur le projet criminel d'Abdoulak Ansarov. Selon les éléments donnés par le procureur national antiterroriste, c'est pire que ce que l'on pouvait imaginer. À 14h, Abdoulak Ansarov, qui connaissait le nom du professeur, mais pas son visage, aborde un adolescent de 14 ans devant le collège. Il lui propose 300 euros payable en deux fois s'il l'aide à reconnaître Samuel Paty. L'adolescent rejoint par un camarade peu avant 16h accepte. Aux deux collégiens, le terroriste aurait confié qu'il voulait filmer Samuel Paty, l'obliger à demander pardon pour avoir offensé le prophète, mais aussi l'humilier et le frapper. Ce serait donc en connaissance de cause, selon le procureur, que les deux garçons auraient accepté de décrire physiquement l'enseignant. Au moment de la sortie des cours à 17h, il laisse à d'autres collégiens moins informés le soin de désigner le professeur. Sans l'intervention des collégiens, précise le procureur, l'assassin n'aurait pas pu identifier sa victime.
Et les deux collégiens ont été laissés libres, placés sous contrôle judiciaire. L'adolescente à l'origine de cette affaire devrait être réentendue dans les prochains jours. Et puis on en sait un peu plus sur la radicalisation du tueur ces derniers mois. Il aurait même, selon le Parisien aujourd'hui en France, eu des contacts avec un interlocuteur localisé à Idlib en Syrie. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h06 sur le front du Covid, Agnès, de nouveaux couvre-feux en perspective.
Ainsi, c'est tout le département de la Loire qui devra rester à la maison entre 21h et 6h du matin à partir du week-end prochain. Le taux d'incidence atteint 673 pour 100 000 habitants quand le seuil d'alerte est fixé à 250. Le Premier ministre et le ministre de la Santé détailleront en fin d'après-midi la nouvelle carte de France qui vire de plus en plus au rouge écarlate. Les villes de Clermont-Ferrand, Tours, Nantes et Strasbourg sont également sur la sellette, tout comme les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Dans la petite commune de Saint-Jean-de-Royans, au pied du Vercors, les cas augmentent particulièrement vite. Reportage de Claire Guédon.
Une recrudescence catastrophique même, selon Michel Duc-Mauger, médecin généraliste. On déclare une dizaine de cas positifs par jour. La faute surtout aux événements privés qui créaient beaucoup de clusters, selon le médecin.
Il y a eu un mariage le week-end dernier. Une personne qui était suspecte, enfin, qui toussait, qui n'était pas bien et qui s'est présentée quand même au mariage. Donc il y a un beau cluster. Voilà, on avait peut-être 45 et 10 personnes de contaminées.
Des affiches ont été placardées sur les vitrines de la commune pour faire de la prévention. Jean-Christophe est gérant d'un bar, il les a remarqué et évidemment ça l'inquiète.
S'il y a une recrudescence de Covid et que ça devient vraiment dangereux, il va falloir qu'on serre la vis plus fort que ça, quoi. Essayer de ne pas laisser les gens se mélanger, enfin faire n'importe quoi.
Il a demandé à sa serveuse de prévenir ses clients comme Didier qui vient très souvent.
Elle nous a demandé notre numéro de téléphone, notre nom et prénom. Elle nous a demandé tout ça et c'est pour ça qu'on lui a dit mais pourquoi ? Elle nous a dit mais parce que le virus se répand rapidement dans le Royan.
C'est quelque chose qui s'est jamais arrivé avant ici ?
Non, jamais.
Ludivine a bien remarqué cette augmentation. Depuis quelques semaines, elle a de plus en plus de proches testés positifs au Covid.
On se rend compte qu'on fait tous attention et que malgré tout, on n'est pas à l'abri, on n'y échappe pas, quoi.
Dans le Royan, en moyenne, 50 personnes sont positives pour 100 tests effectués, contre 13% dans le département de la Drôme.
Claire Guédon de France Bleu, Drôme-Ardèche. Et puis hier, le seuil des 34 000 décès a été franchi en France. Ces nouvelles mesures sanitaires doivent-elles s'accompagner de nouvelles aides pour les familles les plus précaires? Oui, estiment plusieurs députés, alors que le Premier ministre présentera après-demain l'acte 2 du plan pauvreté. Delphine Simon.
Relancer, oui, mais protéger d'abord, affirme l'ex-marcheur Aurélien Taché. Emmanuel Macron privilégie l'accompagnement par l'emploi, mais il faut aussi parer à l'urgence. Au-delà de la prime de 150 euros pour les allocataires du RSA, Alexandre Holroyd, chargé de coordonner les députés En Marche à la Commission des Finances.
Il y aura sans doute besoin de travailler plus pour être sûr que tous les plus précaires sont protégés, ceux qui tombent potentiellement entre les mailles du filet. On réajuste ces mécanismes au fur et à mesure. Ça soutiendra évidemment l'activité économique. C'est plus de 4 millions de foyers qui sont touchés par ces primes.
Des solutions sont sur la table. La majorité pousse pour un chèque déconfinement. Une prime est à l'étude. Question de justice sociale mais aussi de relance de la consommation pour le MoDem Jean-Noël Barrot, membre de la Commission des Finances.
Quand on transfère 1 euro d'argent public à ces ménages, on sait qu'il va être consommé. C'est moins le cas des ménages plus aisés. Quand on leur transfère 1 euro d'argent public, une partie et consommer, le reste est épargné.
Des députés qui attendent les mesures de lutte contre la pauvreté samedi, il faudra ensuite les mettre en musique, sans doute dans le 4e budget rectificatif en Conseil des ministres le 10 novembre.
Reste l'espoir d'un vaccin. Des essais sont menés dans plusieurs pays et c'est assombri au Brésil par la mort d'un volontaire. En Chine, c'est une campagne de vaccination expérimentale qui est menée pour la première fois auprès du grand public, avec des volontaires de 18 à 59 ans qui s'inscrivent en ligne. Correspondance en Chine, Chine, signé Dominique André.
Après la ville de Yiwu, capitale des achats de Noël par les grossistes du monde entier, c'est au tour de Shaoxing et de Ningbo, deux autres villes du Zhejiang, d'offrir à leurs habitants la possibilité de se faire vacciner. Les deux injections coûtent 54 euros. Le vaccin est expérimental. Un membre de la commission de la santé de Ningbo confirme, sans donner de date précise pour la vaccination.
Oui, les vaccins sont arrivés, mais nous attendons de connaître le programme de vaccination. Pour le moment, les gens ne sont pas encore vaccinés à Ningbo. On doit recevoir les instructions pour lancer les réservations.
Siège de nombreuses entreprises, le Zhejiang avait été très touché par l'épidémie. Parmi les premiers volontaires vaccinés à Yiwu, on a vu des commerçants qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux.
Dès que j'ai entendu cette info, je suis tout de suite venue pour être vaccinée. Je suis commerçante, je dois aller au Brésil pour mes affaires. Avec le vaccin, je suis en sécurité, je n'ai plus peur.
Je travaille avec l'étranger, je n'ai pas le choix. Nous devons faire des affaires et pour ça nous voyageons souvent dans les pays étrangers.
Le programme de vaccination d'urgence contre le Covid-19 s'étend donc au public. 520 millions de vues ont été enregistrées sur les réseaux sociaux chinois. 13 vaccins expérimentaux sont en cours d'essai, dont 4 en phase 3. Pékin, Dominique André, France Inter.
En Chine, le public teste à son tour un vaccin contre le coronavirus. C'est à lire aussi sur franceinter.fr. Marseille.
Excusez-moi.
Un peu de football, Nicolas. Oui. Marseille rate son retour en Ligue des Champions. L'OM s'est incliné hier soir à Athènes face à l'Olympiakos 1-0. À noter le carton du Bayern Munich tenant du titre 4-0 face à l'Atlético Madrid.
Et enfin, le théâtre s'adapte. Alors voilà, courez-y.
Avec des représentations en fin de journée pour pouvoir être rentré à la maison avant 21h. Le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin avait dans un premier temps annoncé la suspension de la pièce avant la retraite. Il est revenu sur sa décision. Et c'est tant mieux, nous dit Stéphane Capron, car c'est l'une des pièces les plus réussies de ce début de saison.
Chaque 7 octobre au soir, une fratrie se réunit en Allemagne pour célébrer l'anniversaire d'Himmler. L'action ne se situe pas dans les années 40, mais bien plus tard. L'auteur autrichien Thomas Bernhardt décrit comment la nostalgie du régime nazi a continué à irriguer la bourgeoisie allemande d'après-guerre. Un texte glaçant à interpréter pour les acteurs, dont Noé Milowski.
Quand on a travaillé tous ces derniers mois, on se disait, on faisait pas ce spectacle pour dénoncer le nazisme. Il y aurait aucun courage à dénoncer le nazisme. Si ce qu'on fait passe la rampe, alors peut-être ça interroge chacun de nous dans ses propres abîmes.
Noé Milowski, réalisatrice, actrice au cinéma, joue pour la première fois au théâtre et guidée par le grand metteur en scène qui est Alain Françon, elle fait des étincelles.
Je m'émerveille chaque jour, vraiment, chaque jour. Je m'émerveille du travail d'Alain Françon. Il est extraordinaire. Il est d'une précision, d'une intelligence, d'une profondeur dingue et d'un amour des acteurs merveilleux.
Noé Milowski est la cadette de la famille, révoltée face à la haine odieuse de sa sœur et de son frère. Incarné par Catherine Yégel et André Marcon, ils composent tous les trois un puissant trio d'acteurs.
Avant la retraite de Thomas Bernhardt, c'est donc au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris et c'est un spectacle France Inter.
Agnès, merci. C'était le journal d'Agnès Soubiran.